Chapitre 13. L'aube lente. Le dôme principal n'avait pas plus de 5 mètres de diamètre et l'intérieur n'était guère confortable. Le véhicule, maintenant relié à l'un des deux sas, apportait un volume supplémentaire appréciable. Dans cet hémisphère travaillaient et vivaient 6 savants et techniciens attachés en permanence aux recherches sur AMT-1. Le dôme renfermait également la plus grande partie du matériel et des instruments, ainsi que tout ce qui ne pouvait supporter le vide extérieur. On y trouvait cuisine, salle d'eau et toilette. Un circuit de TV surveillait en permanence le site. Floyd ne fut pas surpris lorsqu'Halvorsen choisit de rester à l'intérieur du dôme. Il exposa son point de vue avec une franchise admirable. « Les scaphandres sont un mal nécessaire. J'en endosse 1-4 fois par an pour mes tournées d'inspection. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais m'asseoir ici et vous regarder par TV. » Il était assez injuste à l'égard des scaphandres, car les tout derniers modèles étaient maintenant plus confortables que les armures portées par les premiers explorateurs lunaires. On pouvait les endosser en moins d'une minute, sans aide, et ils étaient pratiquement automatiques. Le modèle 5 que Floyd portait maintenant le protégeait de toutes les rigueurs de la lune, de nuit comme de jour. Accompagné du docteur Michaels, il se dirigea vers le petit sas. Comme cessait la pulsation des pompes, il sentit son scaphandre se raidir sur lui et le silence du vide les enveloppa soudain. Il fut brisé par le son rassurant de la radio.
« Ok pour la pression, docteur Floyd ? Vous respirez normalement ?
Ça va. » Son compagnon vérifia les écrans et les jauges placées à l'extérieur de son scaphandre, puis déclara
« Bon, allons-y. »
La porte extérieure s'ouvrit et le paysage de poussière apparut, illuminé par la terre. Avec des mouvements lents de nageur, Floyd suivit Michaels. La progression n'était pas difficile. En vérité, il se sentait beaucoup plus à l'aise dans le scaphandre que nulle part ailleurs. Le poids supplémentaire qu'il apportait imposait une faible résistance au mouvement et donnait l'illusion d'avoir presque retrouvé la pesanteur terrestre. L'aspect du paysage avait quelque peu changé depuis leur arrivée, moins d'une heure auparavant. Les étoiles et la demi-terre étaient toujours aussi brillantes, mais la nuit lunaire, longue de 14 jours, approchait de son terme. La couronne solaire était comme une aube étrange à l'horizon de l'est, et soudain, le mât qui supportait l'antenne de radio à une quarantaine de mètres au-dessus de Tycho parut s'embraser dans les tout premiers rayons du soleil. Floyd et Michaels attendirent jusqu'à ce que le directeur des recherches et ses deux assistants émergent à leur tour du sas, puis ils marchèrent ensemble vers l'excavation. Lorsqu'ils parvinrent au bord, un arc incandescent se dessinait à l'horizon. Il faudrait encore plus d'une heure au soleil pour faire son apparition, mais déjà, les étoiles commençaient à s'effacer. L'excavation était encore plongée dans l'ombre, mais les projecteurs illuminaient violemment le centre. Floyd s'engagea avec précaution sur la rampe qui conduisait au rectangle de nuit. Il éprouvait une sensation de dépaysement et de vulnérabilité. Ici, presque au seuil de la Terre, l'homme affrontait un mystère qu'il ne résoudrait peut-être jamais. 3 millions d'années auparavant, quelque chose était venu là. Quelque chose avait laissé cet incompréhensible symbole avant de regagner l'une des planètes ou les étoiles. Floyd fut interrompu dans sa rêverie.
« Ici le directeur des recherches. Mettez-vous sur un rang, je vous prie, afin que nous puissions prendre quelques photos. Docteur Floyd, pouvez-vous vous placer au centre ? Docteur Michaels ? Merci. »
À l'exception de Floyd, nul ne semblait trouver qu'il y avait là quelque chose de drôle. En toute honnêteté, il dut s'avouer d'ailleurs qu'il était heureux que quelqu'un eût amené un appareil photo. Le cliché serait incontestablement historique et il en garderait quelques exemplaires pour lui. Il se demanda si son visage serait visible sous le casque. « Merci, messieurs, » dit le photographe après qu'il surprit une bonne dizaine de clichés. « La base vous adressera les tirages que vous pourriez désirer. » Floyd reporta alors toute son attention sur le monolithe noir. Il en fit lentement le tour, s'arrêtant pour l'examiner sous tous les angles, essayant de fixer dans son esprit toute l'étrangeté de cette vision. Il n'espérait pas découvrir quoi que ce fût, car il savait très bien qu'il ne restait pas 1 cm² qui n'eût été examiné au microscope. Lentement, le soleil montait au-dessus du cratère et ses rayons se déversaient presque librement sur la face est du monolithe. Celui-ci, pourtant, continuait d'absorber chaque particule de lumière. Floyd décida de se livrer à une expérience très simple. Il se plaça entre le bloc et le soleil et chercha son ombre sur la surface noire et lisse. Il n'y en avait aucune. 10 kilowatts de chaleur brute, pour le moins, devaient actuellement toucher le monolithe. Si quelque chose se trouvait à l'intérieur, très bientôt, cela entrerait en ébullition. Comme c'est étrange, se dit Floyd, de se trouver ici, alors que le soleil, pour la première fois depuis que la Terre a connu les glaciers, va toucher cette chose. Le noir. L'idéal pour absorber l'énergie solaire. Mais il rejeta cette pensée à peine lui fut-elle venue. Qui eût été assez stupide pour enterrer un appareil fonctionnant à l'énergie solaire à plus de 5 mètres sous le sol? Il regarda la Terre qui commençait déjà à pâlir dans le ciel du matin lunaire. Seule une poignée d'hommes entre 6 milliards qui y vivaient étaient au courant de la découverte. Comment l'humanité réagirait-elle lorsque le blackout serait levé? Les conséquences politiques et sociales seraient immenses. Chaque être, quelle que fût son intelligence, verrait sa vie, sa philosophie, son sens des valeurs subtilement transformés. Même si l'on ne découvrait rien de plus sur AMT-1, même s'il demeurait pour toujours un mystère, l'homme saurait désormais qu'il n'était pas seul dans l'univers. Ceux qu'il avait manqués à quelques millions d'années près pouvaient fort bien revenir un jour. Et si ce n'était pas eux, il en viendrait d'autres. Tous les avenirs possibles recélaient désormais cette éventualité. Il était encore perdu dans ses pensées quand le haut-parleur, à l'intérieur de son casque, émit soudain un sifflement électronique suraigu, une sorte de signal distordu, saturé. Instinctivement, il leva ses mains gantées jusqu'à son casque. Puis il se reprit et agrippa le contrôle de volume d'un geste frénétique. 4 signaux déchirèrent encore l'éther, puis ce fut le silence miséricordieux. Tout autour de l'excavation, les silhouettes des hommes s'étaient figées. Ainsi, se dit Floyd, cela ne venait pas de mon récepteur. Ils ont tous entendu. Après 3 millions d'années d'obscurité, AMT-1 venait de saluer l'aube lunaire.